à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce 17 avril 2018. Bolduc qui est là. Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour.
En forme.
Oui, toi?
Oui, 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 ça va, même si à l'extérieur, c'est gris, 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 mais le moral est bon.
C'est le printemps.
Ah, ouais. Ouais. On peut le voir comme
un
ça.
Un printemps gris, mais c'est le printemps.
Oui, ça fait partie de ce qui peut ressembler au printemps. Mais
ouais,
dans notre
renouveau.
Petite tête, avec lunettes roses, on imagine souvent les bourgeons, le soleil, les oiseaux qui chantent. Mais ça va arriver.
Éventuellement.
Oui, oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Allez-y donc avec les éphémérides de ce 17 avril.
Oui, ce 17 avril, c'est la journée mondiale de l'hémophilie et aussi la journée mondiale des luttes paysannes. Donc, on salue tous les paysans de la Terre. Quelques événements. En 1989, en Chine, c'était le début des manifestations étudiantes qui seront réprimées dans le sang au mois de juin suivant, avec, on se souvient, de la place Tiananmen. Là, donc, ça n'a pas duré très longtemps. En 1982, à Ottawa, la reine Élisabeth II proclame le rapatriement de la Constitution canadienne de 1982 et la Charte canadienne des droits et libertés. Constitution que le Québec n'a pas encore signée. Un jour, peut-être. En 1979, les Noirs peuvent enfin voter pour la première fois en Rhodésie. Et la Rhodésie, j'ai regardé la Rhodésie qui deviendra le Zimbabwe, si ma mémoire est bonne.
J'espère qu'elle est bonne.
Souhaitons-le. En 1970, Apollo 13 revient sur Terre. En 1964, Ford présente à la Foire mondiale de New York sa Mustang, oui. Donc, c'est le début de la Mustang. En 1961, c'est l'opération de la baie des cochons à Cuba. Les Américains voulaient se débarrasser de Fidel Castro. Ils ont essayé, je ne sais pas combien de fois, mais ça...
Ça n'a pas marché.
Ça n'a jamais marché. En 1957, Ludmila Chiariev, oui, fonde les grands ballets canadiens. Quelques naissances. En 1620, Marguerite Bourgeois naissait, religieuse d'origine française, qui a fondé la congrégation de Notre-Dame de Montréal. En 1894, Nikita Khrouchtchev, homme d'État soviétique, naissait. Et petite parenthèse, allez voir, c'est à l'affiche présentement La mort de Staline. C'est un des personnages principaux, Khrouchtchev, et c'est assez rigolo comme film.
Ouais, ouais. Ah oui, c'est rigolo.
Oui, oui, c'est ironique, là. C'est, ouais, ouais, ouais. C'est un bon film.
Parce que Staline n'était pas très drôle, lui.
Non, 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 non. Toute l'atmosphère n'est pas drôle, mais c'est rendu
c'est
de manière
cynique,
ironique.
Ouais,
absolument. À voir. En 1946, aujourd'hui, naissait Michel Richard. Donc, c'est sa fête à Mme Richard.
Oh, bonne fête, Mme Richard. Quel âge?
1946, donc 54 plus 18, 72.
72. Ouais. Elle ne les fait pas. Non, une jeunesse éternelle, cette Michel Richard.
Ouais. Quelques décès. En 326, je l'ai pris juste pour le nom, Alexandre d'Alexandrie décédait. Patriarche d'Alexandrie.
Le grand Alexandre?
Non, 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 c'est Alexandre d'Alexandrie.
Autre chose. OK, ouais, d'accord. Ouais.
Un patriarche. En 1680, oui, Kateri des Takwita. Amérindienne mourait, elle a été consacrée sainte il y a quelques années ici, là. La première sainte amérindienne en Amérique du Nord.
Béatifiée?
Non, même sainte.
Même sainte?
Oui, oui, rendue sainte. Je ne me souviens pas quel pape. Je crois que c'est Benoît XVI, mais je dis ça sous réserve. Là. En 1790, Benjamin Franklin, un des fondateurs des USA, des États-Unis, donc mourait. En 1790. En 2008, l'homme politique, écrivain et poète martiniquais Aimé Césaire décédait. En 2014, Gabriel Garcia Marquez nous quittait aussi. Il avait reçu le prix Nobel de littérature en 1982. Il était né en 1927 et ça fait le tour de ses éphémérides de ce 17 avril.
L'auteur du chef-d'œuvre L'amour au temps du choléra.
Oui, ouais, ouais, et aux 500 ans de solitude aussi.
Ah oui. Merci beaucoup.
Plaisir.
À la une de la presse, exclusif, tueur à tout prix. Ils ne sont fidèles à aucun clan et se vendent aux plus offrants. Il serait au moins une demi-douzaine au Québec, a appris la presse. Ce sont les nouveaux tueurs à gages version 2018. Actualité, ceux qui sont contributeuristes sont heureux. Un groupe militant de l'UQAM invite les profs à adopter de nouvelles graphies pour dégenrer le français. La chronique de Mario Girard intitulée « La nouvelle police du pote ». tuerie dans la grande mosquée, Bissonnette a-t-il joué la comédie? La chronique du Goût du Mât exclusif, Télé-Québec recrute Marc Labrèche. L-E-L-S sont nombreux et heureux. Alors que la France rechigne encore à écrire Madame la ministre, un groupe militant de l'UQAM tente de convaincre le corps enseignant de l'établissement de passer au genre neutre avec des phrases comme « ceux qui sont contribués ». Teuris sont heureux, comme je vous lisais en une de la presse d'aujourd'hui. Un dépliant distribué graduellement au cours des derniers mois dans les boîtes aux lettres d'au moins une partie du personnel de l'université et obtenu par la presse a fait froncer quelques sourcils. Le petit guide des enjeux LGBTQIA+ à l'université, c'est le nom du guide, écrit par plusieurs doctorants, doctorantes de différents départements de l'UQAM, demeurant anonyme, propose de nombreux moyens de dégenrer ses interventions. Les personnes LGBTQIA+ sont les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexuées, asexuelles, entre autres, peut-on lire dans le guide. En plus des formes fréquentes, les étudiantes et les étudiants trait d'union E, trait d'union S, le guide propose aussi d'autres moyens moins habituels qui peuvent demander un temps d'entraînement pour être bien maîtrisés. Le document propose ainsi des graphies comme « nombreux » ou « heureux » en plus de pronoms inusités comme « il »,« ille » entre parenthèses « s »,« yel » entre parenthèses « s »,« celui » avec deux « l »,« seule » avec deux « l » ou « seuse », « z-e-s ». Le guide se réclame notamment des travaux de Maria Nenje-Manza, professeure à l'École de service social de l'UQAM et spécialiste du travail du sexe et des minorités sexuelles, elle-même a reçu le guide en question à l'automne. Madame Manza l'avoue sans embâge, elle féminise son discours mais n'utilise pas le genre neutre proposé dans le guide, pas encore du moins. Alors quelques extraits du guide. L'humour est déconseillé. Certaines stratégies mises en place pour aborder d'autres sujets sensibles ou contentieux ne sont pas nécessairement adaptées dans le cas des enjeux LGBTQIA+. L'humour est généralement déconseillé. En effet, de quoi et de qui rit-on? Et à quel prix? Jouer l'avocat du diable dans les cas d'enjeux affectant la dignité et les droits fondamentaux de certaines personnes est inadmissible que cela soit performé par l'enseignant ou l'enseignante ou l'étudiant ou l'étudiante. Enfin, la discussion libre autour d'une œuvre d'art controversée, d'un article de presse polémique ou de tout autre document dont le contenu n'est pas explicitement annoncé comme problématique peut vite mal tourner. Le débat peut provoquer des interventions violentes si l'enseignant n'énonce pas clairement son approche du document. Pour être bien utilisé, l'analyse doit porter sur une question dont les réponses ne portent pas atteinte au respect des personnes concernées. Et finalement, le document est le résultat d'une initiative étudiante. Il ne s'agit donc pas d'un document institutionnel ou facultaire. Il n'a été vu ni approuvé par aucune instance de la faculté de communication et l'université, a indiqué par courriel la porte-parole Jenny Desrochers. Madame Desrochers a souligné que l'UQAM disposait de sa propre politique de féminisation des textes adoptés dans les années 90. Champlain, le chantier du nouveau pont Champlain a été le théâtre de 52 accidents de travail, dont 11,21% qui ont entraîné des absences au travail pour les travailleurs blessés depuis le début des travaux en avril 2015, selon des données fournies à la presse par le consortium Signature sur le Saint-Laurent, SSL. On s'entend qu'un seul accident de travail, c'est toujours un de trop. Par contre, pour un chantier de cette envergure-là, 52 accidents en 3 ans, ce n'est pas beaucoup, dit Philippe Lapointe, chargé de communication à la FTQ Construction. Fraises contaminées, Adonis élargit son rappel. Des jus, des cocktails et des smoothies à base de fraises vendues chez Adonis ne doivent pas être consommés. Les épiceries Adonis annonçaient samedi qu'une quantité inconnue de fraises congelées de marque Montana provenant d'Égypte et vendues dans ces commerces avait été contaminée par le virus de l'hépatite A et que des cas de maladie avaient été rapportés. Hier, l'entreprise, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC, a élargi son rappel aux jus d'Adonis, fraises et bananes, aux smoothies, douceurs aux fraises et aux cocktails Adonis, Monsieur Twister et saveurs d'été contenant des fraises. Les boissons ont été préparées avec les fraises congelées. Toute personne ayant consommé l'un de ces produits et qui n'a pas été vaccinée contre l'hépatite A doit consulter un professionnel de la santé, avise le MAPAC. Véronique Yvon est estomaquée par la requête dévoilée hier par la presse du barreau du Québec et de sa branche montréalaise qui profère, selon elle, une insulte aux parlementaires québécois en s'adressant aux tribunaux pour faire invalider les lois qui ont été adoptées de façon pratiquement unilingue en français, ce qui ne serait pas conforme à la Constitution canadienne, juge-t-il. La porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et vice-chef du Parti québécois juge que le barreau met ainsi en cause les droits constitutionnels des parlementaires de pouvoir œuvrer et légiférer dans la langue de leur choix. Étant député dans le seul État francophone au Canada, ça va de soi que je dois pouvoir légiférer uniquement dans ma langue, faire les travaux parlementaires dans ma langue, m'exprimer en commission dans ma langue et que tout cela se passe en français comme c'est le cas présentement, a dit Mme Yvon. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a de son côté affirmé que les lois sont déposées, adoptées et sanctionnées dans les deux langues officielles. Arménie, l'opposition appelait hier à poursuivre la mobilisation à Erevan, la capitale de l'Arménie, où plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le maintien au pouvoir de l'ex-président Serge Sarkissian, probable futur premier ministre. Au pouvoir de 2008 à mars 2018, Serge Sarkissian devrait être nommé premier ministre aujourd'hui, à l'issue d'un vote du Parlement majoritairement acquis à sa cause. Un moyen pour l'ancien président qui avait fait modifier la Constitution en 2015 pour transformer l'Arménie en république parlementaire alors qu'il ne pouvait briguer un troisième mandat consécutif de retrouver la tête de l'État. Et on termine avec une exclusivité. En forte croissance, Rise Kombucha remercie 30% de ses employés. Presque le tiers des employés du fabricant montréalais de thé fermenté Rise Kombucha vient d'être remercié, a appris la presse. Mais ce n'est pas parce que l'entreprise va mal. Au contraire, sa croissance des ventes de 20 à 40% par année rendait l'automatisation de l'embouteillage plus que nécessaire. C'est triste pour moi, mais c'est logique, rendu à notre taille. C'était rendu quasiment irresponsable de fonctionner manuellement. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est de créer de l'emploi, de la valeur et de la joie, alors c'est un dossier délicat pour moi, a indiqué le PDG Julian Giacomelli. Environ 50 personnes étaient affectées à l'embouteillage du kombucha dans l'usine de Saint-Léonard. Or, un investissement de plus de 5 millions de dollars a permis d'automatiser cette tâche, de doubler la capacité de production et de doubler la superficie des lieux de 20 000 à 40 000 pieds carrés ces derniers mois.
Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, cargue ta voile, aussi la mienne. Fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Si les trésors dont nous avions la clé, le plan, la carte et la belle aventure n'étaient que rêves et qu'imposture, évoque-les, évoque-les par des drapeaux de pluie dans les matures, par des drapeaux de pluie dans les matures. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Si je me fais facteur ou jardinier, ne me viens plus parler de contrebande, mais si tu veux que je me pende au grand hunier, au grand hunier, raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre, je
Les bateaux, chantés par Monique Lérac.
En une du Devoir, une photo, quatre ministres, Lucie Charlebois, David Hurtel, Jean-Marc Fournier et Sébastien Proulx, ont été dépêchés devant les journalistes pour augmenter la pression sur le gouvernement fédéral afin qu'ils répartissent l'effort d'accueil des demandeurs d'asile qui entrent de manière irrégulière au Québec. En titre « Migrants irréguliers, le Canada doit jouer son rôle », disant ses capacités d'accueil saturées, le Québec demande à Ottawa d'en faire plus pour le soulager. Attentat de Québec, le projet funeste d'un jeune homme en mal de gloire. Alexandre Bissonnette a dit admirer les tueurs de masse depuis son adolescence. Jongler entre tradition et modernité. L'art du cirque chez les Inuits au Nunavik. Cirkinik parcourt le territoire pour y offrir son enseignement. C'est une correspondance de Caroline Montpetit qui est à Inukjuak, au Nunavik. Dans les marges du surréalisme, l'Université de Montréal expose des œuvres fantasmagoriques de femmes. Corse, tourisme et immigration font craindre la dépossession. Francophonie à Paris, Trudeau milite pour Michaël Jean. Des preuves présentées par la Cour dans le dossier d'Alexandre Bissonnette mardi tranchent avec l'image de fragilité et d'état de crise qui se dégageait de l'interrogatoire et de l'appel fait au 911 présenté la semaine dernière. Selon un rapport déposé en preuve, le meurtrier a dit à une intervenante en prison se rappeler tout ce qu'il avait fait le soir du 29 janvier, en ajoutant qu'il regrettait de ne pas avoir tué plus de personnes. « Ce n'est pas vrai que je ne me souviens pas. Je me souviens de tout », a-t-il déclaré lors d'un entretien en septembre avec l'intervenante en santé mentale, Guylaine Caillouette. Le compte-rendu de cet échange a été présenté par la Couronne dans le cadre des présentations sur la peine qui ont débuté après qu'Alexandre Bissonnette eut plaidé coupable à 12 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre. Madame Caillouette, une intervenante en santé mentale, l'a rencontrée toutes les semaines durant sa détention. Mais le 20 septembre, il s'est ouvert à elle comme il ne l'avait jamais fait auparavant et lui a parlé directement de la tuerie. Il lui a alors confié de ne plus vouloir jouer un rôle et que deux psychiatres ne l'avaient pas cru quand il disait entendre des voix. « J'aurais pu tuer n'importe qui. Je ne visais pas les musulmans. Je voulais la gloire », lui a-t-il dit, et d'ajouter qu'il entretenait une admiration pour les tueurs en Syrie depuis l'adolescence. « J'ai fait des recherches sur les tueurs en Syrie et ce sont mes idoles », a-t-il dit. La fascination pour les tueurs et l'envie de faire un geste d'éclat seraient apparues alors qu'il se faisait ridiculisé, étant plus jeune. L'intervenante souligne aussi que le jugement du criminel ne lui semblait pas altéré durant la discussion, qu'il avait un discours cohérent et une attitude hautaine. Parité, Pauline Marois ne croit pas que les quotas sont la solution. Ce n'est pas par l'imposition de quotas que le monde politique atteindra la parité homme-femme, estime Pauline Marois. L'ancienne première ministre croit plutôt que c'est grâce à un mélange de pression populaire et de volonté politique qu'on verra plus de femmes en politique. Et pourquoi pas un seuil obligatoire de candidature respectant la zone paritaire, une suggestion mise en avant par plusieurs groupes? Pauline Marois, qui prononce ce midi une conférence sur son parcours dans un monde majoritairement masculin, devant des invités de l'organisme Crew M, répond qu'il y a un écueil, le processus démocratique. Un chef ne peut pas imposer un candidat, rappelle-t-elle, en évoquant les assemblées d'investiture que tous les partis tiennent, sauf la coalition Avenir Québec, où François Legault décide des candidatures. Et même si on présente 39 % de candidates, comme le Parti québécois l'a fait en 2014, même si elles sont dans de bonnes circonscriptions, on ne va pas toujours réussir à les faire élire. Des candidats masculins peuvent les battre. Et au bout du compte, on peut quand même se retrouver avec 27 % d'élus, comme ce fut le cas il y a 4 ans. Partant de là, la tâche d'un premier ministre qui voudrait composer un conseil des ministres paritaire devient ardue, dit-elle. On doit saluer ce que Jean Charest a fait en 2007. Moi, avec un gouvernement minoritaire, j'ai fait le maximum dans les circonstances. Le tiers du conseil était composé de femmes, mais c'était impossible, soutient-elle. L'approche non contraignante pour atteindre la parité en politique serait aussi celle recommandée par les élus de l'Assemblée nationale, qui étudient cette question depuis 2 ans, rapportait la semaine dernière la presse canadienne. La semaine dernière, 69 % des répondants à un sondage léger Le Devoir disait penser que les partis politiques devraient avoir autant de femmes que d'hommes parmi leurs candidats. Paris, Justin Trudeau reçu avec tous les égards. À l'occasion de sa première visite bilatérale en France, le premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré longuement le président français Emmanuel Macron, avec qui il a discuté de la mission de paix au Mali et de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Mais avant de gagner l'Élysée, il a tenu à réitérer sa confiance envers la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean. Alors que l'ancienne gouverneure générale du Canada a été ébranlée par plusieurs révélations sur son train de vie et sa gestion de l'OIF, le premier ministre a invité les dirigeants des 54 États membres de l'organisation à renouveler leur confiance à la secrétaire générale lors du sommet qui se tiendra à Erevan en Arménie en octobre prochain. Je suis très heureux de venir voir en personne l'excellent travail de l'OIF et de la francophonie dans son ensemble sous la conduite de sa secrétaire générale, a-t-il affirmé. Dans l'après-midi, Justin Trudeau a été reçu par Emmanuel Macron avec tous les égards possibles. Dans leur entretien, Emmanuel Macron et Justin Trudeau se sont félicités de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne et de la participation canadienne à la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Emmanuel Macron a salué l'implication du Canada dans la mission de paix au Mali, même si, précise-t-il dans son mandat, il n'y a pas la lutte contre le terrorisme. Montréal augmente encore la cadence des travaux d'infrastructure. Elle entend dépenser 490 millions de plus que l'an dernier afin de remettre en état ses routes et son réseau d'aqueducs et d'égouts pour un total de 1,176 milliards en 2018. En revanche, le nombre de kilomètres de voies cyclables créées ou réparées sera moins important que l'an dernier. La Ville de Montréal a présenté lundi sa programmation de travaux pour l'année 2018. La voirie accapara 542 millions, alors que les infrastructures et les usines d'eau représenteront des dépenses de 538 millions. Une somme de 96 millions sera consacrée aux grands projets.
La espera. a que regrese la desdichada.
Et Mlle Ruiz nous interprétait Cucurucucu, Paloma.
À la une du Journal de Montréal, une usine d'armes pour criminels à Montréal, révélation troublante au procès de deux hommes accusés de fabrication d'armes à feu prohibées, de silencieux et de chargeurs à grande capacité. Les avocats qui utilisent Facebook en cours, le monde juridique choqué par l'identification des jurés. Et un drone du futur imaginé au Québec. D'abord, une nomination. Gilles Brien se joint au journal. C'est encore plus vrai par les temps qui courent, mais 12 mois par année, la météo reste un sujet de discussion, de prédilection au Québec. C'est pour cette raison que le journal est heureux d'annoncer que le météorologue Gilles Brien signera une chronique régulière dans ses pages. Vous pouvez le lire dès aujourd'hui en page 4, mais il interviendra aussi souvent que la météo nécessitera quelques explications, dont chaque lundi pour nous parler de la semaine. Gilles collabore déjà régulièrement à la confection de nos pages en 5 minutes. Météorologue à l'environnement en Canada pendant 33 ans, président sortant de l'Association professionnelle des météorologistes du Québec et communicateur scientifique chevronné, Gilles Brien a collaboré avec plusieurs médias. Spécialisé en biométéorologie, il est l'auteur du best-seller « Les baromètres humains, comment la météo vous influence » et ce qu'on ne vous dit pas sur le changement climatique. Gilles est également père de 2 enfants handicapés adultes, un autiste et un dysphasique très sensible au changement météorologique. L'identification de jurés est préoccupante. Le ministère de la Justice enclenche une vérification interne. La possibilité d'identifier des jurés grâce à la géolocalisation de l'application Facebook inquiète grandement les différentes instances gouvernementales. Le bureau d'enquête du journal dévoilait hier qu'il est possible d'identifier les membres d'un jury grâce à Facebook lorsque des personnes fréquentent le même endroit, comme un palais de justice pendant plusieurs jours. Le réseau social propose à l'utilisateur de devenir ami avec eux. Il est alors possible de les identifier grâce à leur photo de profil, par exemple. Le journal démontrait que ces informations étaient utilisées par certains avocats de la défense qui peuvent exploiter des informations sensibles afin d'obtenir une issue favorable pour leurs clients. La ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, s'est dite extrêmement préoccupée et a ordonné de faire la lumière sur ces révélations. « une usine remplie d'armes prohibées. Les dirigeants de l'entreprise auraient mentionné à leurs employés qu'il s'agissait plutôt de fusils de paintball. Deux dirigeants d'une usine de métal de Montréal auraient fait croire à leurs employés qu'ils concevaient des fusils de paintball alors qu'ils fabriquaient plutôt de vraies armes à feu sans permis. C'est ce que tentera de démontrer la couronne au procès devant jury de Jean-Pierre Huot et Pierre Larivière qui a débuté hier au Palais de justice de Montréal. Les deux hommes, respectivement âgés de 61 et 63 ans, sont accusés de fabrication d'armes à feu prohibées, de silencieux et de chargeurs à grande capacité et de possession d'armes à feu prohibées sans détenir les permis et les enregistrements nécessaires. Alors, comme les Québécois aiment parler météo, appelons ça une tempête historique. C'est la première chronique de Gilles Brien qu'on annonçait comme collaborateur régulier un petit peu plus tôt. J'en ai vu des tempêtes de verglas dans ma vie, notamment celle survenue il y a 20 ans cette année et dont tout le monde se souvient. Mais c'est la première fois que j'en vois une aussi importante en avril. Et pour cause, car c'était hier la plus importante pluie verglaçante aussi tardive au printemps depuis au moins 75 ans. Les épisodes verglaçants durent moins de 3 heures habituellement en avril. Or, le verglas a sévi pendant plus de 15 heures en Outaouais et dans la région de Montréal. Le sud-est ontarien a été le plus durement touché avec des accumulations de 20 à 40 millimètres de glace. Les quantités sur le Québec ont été moindres, soit de 10 à 20 millimètres. Si vous regardez la carte météo de l'Amérique du Nord dans cette page, vous verrez que c'est une dépression monstre qui nous frappe cette semaine. Le front s'étend sur 3500 km de la péninsule du Yucatan au Mexique jusqu'à la baie d'Hudson, ce qui n'est pas peu dire. La combinaison d'une dépression du Colorado et d'un influx d'humidité du golfe du Mexique a été à l'origine de notre épisode de verglas tardif et de la semaine maussade que nous connaîtrons. Les congés scolaires en raison des tempêtes, une école de Drummondville permet aux élèves de suivre leurs cours à la maison. Le verglas qui a secoué le Québec n'a pas changé le quotidien d'Élisabeth Gauthier, 17 ans, une élève de 5e secondaire du Collège Saint-Bernard de Drummondville. Elle a tout de même pu se lever un peu plus tard puisqu'elle n'a pas eu à se préparer et se rendre à l'école. Grâce à son ordinateur obligatoire pour tous les élèves de ce collège depuis plusieurs années, elle a pu suivre ses cours à peu près normalement à partir de chez elle. Les élèves ont accès au contenu pédagogique via Google Classroom, une application utilisée par l'école depuis longtemps et qui permet aux enseignants de transmettre des documents. En mathématiques, une vidéo préenregistrée lui a livré les explications sur les exercices à faire. Au besoin, elle questionnait l'enseignant, qui était disponible en ligne pour répondre à ses interrogations. Le Collège Saint-Bernard a l'intention d'ici 5 ans de ne plus avoir de cours magistraux. La première étape du projet, qui vise à rendre les élèves plus autonomes, consistait à ne plus annuler l'école en cas de tempête. Il faut dire que les enseignants au secondaire avaient préparé le contenu de leurs cours en conséquence, alertés par les prévisions météo des derniers jours qui annonçaient du verglas. Les funérailles d'Evan Thomas, 18 ans, ont été célébrées hier à Saskatoon, en Saskatchewan, en présence de quelques-uns de ses anciens coéquipiers des Broncos qui ont pu sortir de l'hôpital spécialement pour l'occasion. Des milliers de personnes ont participé à la cérémonie au centre Sask-Tell. C'est la seconde fois qu'un tel hommage est célébré dans cette aréna, le premier étant pour la légende du hockey Gordie Howe en 2016. Pendant que le Québec recevait verglas, pluie et neige hier matin, ce sont d'importantes averses de pluie qui s'abattaient sur New York, si bien que plusieurs stations de métro de la ville se sont retrouvées inondées. À Central Park, il est tombé près de 10 cm de pluie avant midi, selon les estimations d'un météorologue chez AccuWeather. Ces intenses précipitations ont occasionné des délais dans le transport en commun. Plusieurs stations du métro de la ville ont été inondées, créant parfois des scènes surréalistes. À certains endroits, les averses ont carrément créé une chute d'eau devant les portes coulissantes des wagons. Ottawa interdit jusqu'à nouvel ordre aux diplomates canadiens postés à Cuba d'être accompagnés de leur famille pour des raisons de sécurité, comme cela se fait à d'autres endroits comme l'Afghanistan, la Libye ou le Kurdistan. De hauts fonctionnaires d'affaires mondiales ont fait le point hier sur les étranges malaises ressentis par des Canadiens rattachés à son corps diplomatique installé à La Havane. Longtemps privilégiée, la piste d'attaque sonore inédite est maintenant écartée par Ottawa, a confirmé un haut fonctionnaire. Même si la cause reste toutefois inconnue, des actions humaines pourraient être à l'origine des malaises, a-t-on souligné. La majorité des attaques auraient eu lieu en mai 2017. Le nombre de victimes des symptômes qui ressemblent à ceux attribuables à une commotion cérébrale est aussi passé de 8 à 10. Le mystère continue aussi de s'épaissir alors que certaines victimes ont subi des lésions cérébrales dont la nature échappe encore à la science. Et pour terminer, un juge de Toulouse en France a décidé vendredi qu'un garçon né en août et que ses parents désiraient prénommer Djihad s'appellerait Jaïd à l'état civil, a-t-on appris hier. Alors que ses parents souhaitent continuer à l'appeler Djihad à l'oral, le magistrat a choisi dans l'intérêt de l'enfant d'intervertir les deux voyelles du prénom pour les registres d'état civil, a précisé la même source. Djihad désigne, outre le concept de guerre sainte menée pour propager ou défendre l'islam, la lutte ou l'effort, mais la mairie de Toulouse, dans un contexte marqué par des attentats terroristes, avait fait un signalement auprès du procureur de la République.
Ouh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses. Qui donne envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nos dérisoires, car foule sentimentale. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle. Thank you. ravagea la mouquère. Du ciel des vagues, des désirs qui nous emballent. Pour demain, nos enfants pâles. Un mieux, un rêve, un cheval.
D'entendre Yaël Naïm qui revisitait Monsieur Souchon, Foule sentimentale.
Les journaux régionaux dans la nouvelle liste du rêve à la réalité pour la maison Aline Chrétien. Même l'incongruité de Dame Nature n'est pas parvenue à décourager une centaine de personnes assistées lundi matin à l'inauguration officielle de la nouvelle maison de fin de vie à Shawinigan, située au bout de la terrasse de la cascade. La présidente de la Corporation des Trois Colombes, Lise Landry, a profité de l'occasion pour confirmer que ce service serait dorénavant connu sous l'appellation de « Maison Aline Chrétien », afin de rendre hommage à une famille qui a donné une nouvelle impulsion au projet grâce à son implication financière. Le sous-sol de l'ancienne résidence de Feu Gabriel Buisson, fondateur de la société Laurentide, manquait d'espace pour accueillir tous les invités. Il faut dire qu'une longue liste de bénévoles, administrateurs, décideurs ont contribué à une réussite qu'on ne croyait plus envisageable en 2011, au moment de la dissolution du premier groupe qui n'était pas parvenu à amasser les fonds nécessaires pour garantir l'avancement de cet ambitieux projet. Une nouvelle corporation a toutefois été formée en 2014, avec à sa tête cette fois l'ex-mairesse de Shawinigan, Lise Landry. En avril 2016, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, garantissait une aide financière annuelle récurrente de 544 000 $ indexée pendant 25 ans, retirant ainsi un lourd fardeau des épaules des administrateurs. L'implication de l'ex-premier ministre Jean Chrétien, qui a recueilli pas moins de 845 000 $ auprès de sa famille et de ses proches et celle de la famille Buisson, on fait le reste. Les 8 chambres sont maintenant prêtes à recevoir des personnes en fin de vie à compter du 25 avril. Jean Chrétien, chroniqueur toujours dans le Nouvelliste, l'ex-premier ministre du Canada Jean Chrétien reprend la plume cette fois pour partager des anecdotes sur sa vie publique. Le lancement du recueil est prévu à l'automne aux éditions La Presse. L'ex-député de Saint-Maurice a glissé cette confidence lundi matin alors qu'il participait à l'inauguration officielle d'une nouvelle résidence de soins de fin de vie à Shawinigan, la maison Aline Chrétien. Monsieur Chrétien a déjà publié 2 biographies, Passion politique en 2007, et dans la fosse au Lion en 1985, cette fois, il livrera son vécu sous une autre forme. Ce sera un livre différent, explique-t-il. Ce ne sera pas la vie de Jean Chrétien, mais les histoires de Jean Chrétien. Quelqu'un m'a parlé de ça. Il disait que je racontais toutes sortes de choses et que ça va se perdre. À un moment donné, j'ai pensé à ça. L'ancien premier ministre, Robert L. Borden, avait fait ça. Il avait écrit des chroniques. J'ai commencé pour le fun, poursuit M. Chrétien. À un moment donné, je me suis mis à aimer ça. Alors j'en ai écrit 50, entre 600 et 2500 mots chacune. L'homme de 84 ans précise qu'il a couché ses idées sur papier avec l'outil le plus noble qu'il pouvait trouver. « C'est écrit à la plume », mentionne-t-il. « Je l'ai fait lire par des gens de qui je voulais avoir l'opinion. J'ai écrit des histoires qui remontent à 40 ou 50 ans. Ils l'ont fait lire à quelqu'un d'une vingtaine d'années et ce qui l'impressionnait le plus, c'est qu'on lui avait envoyé des manuscrits. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Quand j'étais tanné d'écouter les nouvelles et les tromperies, je m'en allais à ma table de travail. Évidemment, le rôle de sa grande complice de vie sera relevé de nouveau dans ses récits. « Dans la tribune, rarement a-t-on vu un chien remporter autant de prix depuis que Kanak, le chien de soutien émotionnel, est entré en fonction au service de police de Sherbrooke, SPS. En 2016, les récompenses se sont multipliées. Si Kanak est là, Mélanie Bédard est à quelques pas. C'est grâce à cette sergente détective que le SPS est devenu le premier corps de police au Québec à travailler avec un chien de soutien. Le Labrador Retriever, entraîné par la Fondation Mira, se fait réconfortant auprès des victimes d'abus sexuels, de violences ou encore auprès de ceux et celles qui ont été témoins d'un événement traumatique. C'est comme un accommodement raisonnable prévu dans la charte des victimes. On peut accompagner les patrouilleurs lors d'événements traumatiques impliquant des enfants, accompagner la DPJ pour retirer un enfant de son milieu familial. Des enfants ont été témoins du suicide de leur beau-père par arme à feu. On a demandé à Kanak pour les aider à verbaliser. À ce moment-là, j'accompagnais urgence détresse. Si les enfants ont été témoins de violences conjugales, que les policiers ont arrêté l'un des parents, c'est traumatisant. Kanak amène du réconfort, indique Mme Bédard. La majorité des interventions de Kanak se passent auprès des enfants, mais il est aussi présent auprès des victimes de violences conjugales, de harcèlement ou encore auprès d'un témoin d'accident mortel. Cette présence canine sert aussi à faciliter le rapprochement entre les policiers et une clientèle vulnérable. Ça fait tomber la barrière de l'uniforme, de l'autorité, parce que la plupart des gens aiment les chiens. Ils sont intéressés à connaître Kanak, son travail, le flatter. Kanak est d'abord entré au poste de police dans le cadre d'un projet pilote. L'initiative s'est poursuivie et elle s'est par la suite étendue au palais de justice de Sherbrooke. « Mon rêve était d'y aller. C'est le summum du stress pour la victime. » Ça fait 7 fois qu'il va au tribunal, souligne celle qui est entrée au SPS en 1999. Les effets bénéfiques de l'animal sont nombreux. Ça permet de réduire l'anxiété, de les détendre. Ça amène des sourires, beaucoup. Il donne toute son attention à la victime. Pour les plus jeunes, ça leur donne de l'importance. S'ils sont moins occupés à gérer l'anxiété, ils sont plus en mesure de se concentrer, de mieux verbaliser ce qui s'est passé et d'aller chercher des petits détails qui, pour l'enquête, sont précieux. Kanak a fait aussi une différence dans la vie de Mélanie Bédard. L'idée d'un tel partenaire de travail est née alors qu'elle vivait un moment difficile. « Ça a changé ma vie. Ce que j'aimerais dire, c'est de croire en ses rêves et de trouver sa passion. Si on est capable de vivre de sa passion, on ne travaille plus. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Moi, je ne parlais pas devant les gens. J'étais très réservée. Je passais entre les murs et la peinture. Là, je fais des entrevues en direct. C'est la passion qui change tout. » Vous écoutez Le Quotidien des quotidiens, c'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce mardi 17 avril 2018. Je vous invite à rester là puisque dans un petit moment, bien après la pub et la musique, il y aura pour vous la section Actualité culturelle et aussi les sujets libres.
n'auront plus jamais à ce jour.
Le groupe s'appelle The Marathonians, on vient d'entendre « Toi et le soleil ».
Et j'espère qu'il fera soleil pour le Festival de Cannes. On en parle aujourd'hui, un film de l'ONF à la quinzaine des réalisateurs. Le court-métrage d'animation « Le sujet » de Patrick Bouchard vient d'être sélectionné en vue de la 50e quinzaine des réalisateurs. Section parallèle du Festival de Cannes ont annoncé les organisateurs de l'événement en conférence de presse à Paris. S'inscrivant dans la foulée des films de Patrick Bouchard à la fois frontaux, massifs et où les volumes sont perceptibles, le sujet raconte l'histoire d'un animateur qui fouille dans son propre corps pour en extraire des souvenirs. Une fois sa peau coupée au scalpel, l'homme en extrait toutes sortes d'objets, symboles à la fois de ses souvenirs, ses émotions, ses angoisses. Un dernier objet d'une grande lourdeur donne une très bonne idée du poids de ses pensées. Dans le milieu du cinéma, on a aussi qualifié son œuvre de foisonnante introspection organique. Cette sélection à la quinzaine des réalisateurs témoigne de la force créative des studios d'animation de l'ONF. S'est réjoui Claude Jolicoeur, commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l'Office national du film. Le film de M. Bouchard a été projeté en première mondiale en ouverture des 36e rendez-vous Cinéma Québec ou Québec Cinéma. Après son passage à Cannes, il ira en compétition au Festival international du film d'animation d'Annecy du 11 au 16 juin. Le Festival de Cannes a lieu du 9 au 19 mai. Le dévoilement ce matin de la programmation de la quinzaine des réalisateurs était la dernière des quatre grandes sections de l'événement, après celle de la semaine de la critique hier, ainsi que la compétition officielle et un certain regard le 10 avril. Dans le cahier culture du devoir, cahier économie, mais avec la section culture, on parle beaucoup de théâtre et des critiques vraiment très enthousiastes et positives. Je ne vous lirai pas tout l'ensemble du texte, mais quand même quelques extraits en ce qui concerne d'abord « L'erreur est humaine », les Hardings, la création d'Alexia Burger est une réussite totale. C'est une critique de Christian Saint-Pierre, texte et mise en scène d'Alexia Burger au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 5 mai. Après avoir été la précieuse complice d'Olivier Chouanière, d'Emmanuel Schwartz et de Sophie Cadieux, l'auteur et metteuse en scène, Alexia Burger, livre Les Hardings, un premier spectacle bien à elle, un oratorio pour trois voix poignantes, trois comédiens hors pair, trois destins qui s'éclairent mutuellement réunis dans ce qu'on oserait appeler le mystère insondable du théâtre. Dans un véritable coup de génie, l'auteur metteur en scène offre la scène à trois hommes réels, trois homonymes, trois Thomas Harding, dont on comprendra rapidement qu'ils ont bien plus en commun qu'un prénom et un patronyme. Bruno Marsil et Thomas Harding, le chef de train qui a subi un procès pour négligence criminelle dans la catastrophe de Lac-Mégantic, Patrice Dubois et Thomas Harding, un écrivain anglais qui a perdu son fils dans un accident de vélo causé par un problème de frein, Martin Drainville et Thomas Harding, un assureur états-unien spécialisé dans les compagnies pétrolières. La partition est une dentelle, une trame de monologue et de dialogue dans laquelle l'auteur entrelace admirablement les destins des trois hommes, leurs doutes et leurs certitudes, leurs fautes et leurs espoirs, mais aussi des idées qui éclairent indubitablement notre époque, des concepts sociologiques, économiques, scientifiques et philosophiques que leurs parcours respectifs, en partie vrais, en partie inventés, permettent de discuter. Et Christian Saint-Pierre aussi écrit sur une pièce intitulée « Les secrets de la vérité ». Faux et usage de faux, le théâtre du futur continue de voir loin avec une aventure à la fois biblique et martienne. C'est un texte d'Olivier Morin et de Guillaume Tremblay, mise en scène Olivier Morin, une production du théâtre du futur présentée aux écuries jusqu'au 28 avril. On dirait bien que le théâtre du futur n'en finira jamais de prévoir l'avenir du Québec. En effet, après Clotaire Rapaille, l'opéra rock, l'assassinat du président, Épopée Nord et La vague parfaite, la compagnie réunissant Guillaume Tremblay, Olivier Morin et le multi-instrumentiste Navet Confit, joyeuse confrérie maintenant en résidence aux écuries, poursuit sa vaste entreprise d'anticipation avec Les secrets de la vérité, une aventure à la fois biblique et martienne, pour le moins rocambolesque. L'aventure a beau être sans queue ni tête, souvent potache, comment résister alors qu'elle est menée tambour battant dans une totale liberté formelle et idéologique par des comédiens et un musicien bourré de talent? Pas de doute, ces créateurs effrontés sont des bouffons indispensables à la société, des fous essentiels au royaume. Encore le théâtre, puisque hier, chez Duceppe, on annonçait la programmation de 2018-2019, le nouveau tandem formé par David Lorrain et Jean-Simon Traversier à la dramaturgie anglo-saxonne tatouée sur le cœur. Dévoilée lundi, la première saison qui porte leurs griffes à la compagnie Jean Duceppe témoigne d'une urgence à la faire entendre en l'ancrant résolument dans le présent. Le premier coup de semonce du duo, ici croqué, donc une photo avec trois comédiens de cette cuvée 2018-2019. On y voit Isabelle Blais, Sandrine Bisson et aussi, comment s'appelle-t-il? Je vais, de toute façon, on va les nommer ici. Donc, c'est Yves-Jacques. je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas reconnu. Donc, ce premier coup de semonce sera donné avec Oslo. Un thriller politique avec en son centre le conflit israélo-palestinien mis en scène par Edith Patnaud. Octobre aura des allures de retour aux sources avec le classique de Steinbeck, Des souris et des hommes décapés par Vincent Guillaume-Otis. Décembre renouera avec l'actualité post-moi aussi, avec Consentement, à laquelle se mesura Frédéric Blanchette. La fin de l'année alignera trois valeurs sûres, le terrier du même Traversier, La face cachée de la lune de Robert Lepage et le délicieux J'aime Hydro de Christine Beaulieu. Exclusivité de la presse, chronique d'Hugo Dumas, grosse prise pour Télé-Québec qui a mis sous contrat Marc Labrèche pour tenir le gouvernail d'un grand plateau culturel du samedi soir à la rentrée d'automne, me rapporte des espions bien informés. Labrèche aurait paraffé une lucrative entente de 2 ans avec Télé-Québec qui lui garantirait 26 émissions par année de septembre à avril. Le fantaisiste québécois qui a incarné le prof Boff dans le Club des 100 watts deviendrait ainsi une des têtes d'affiche les plus connues de la chaîne publique québécoise. D'après les informations qui ont filtré, Télé-Québec logerait cette nouveauté les samedis à 20h, ce qui repousserait Bel et Bum d'une heure. Marc Labrèche animerait l'émission en compagnie d'une brochette de chroniqueurs réguliers dans une formule préenregistrée qui incorporait des éléments de Tout le monde en parle, de 125 Marianne et de Il y a du monde à la messe. C'est Avanti qui produirait l'émission culturelle de Marc Labrèche et non Fairplay qui manufacture infos, sexe et mensonges pour Radio-Canada. La compagnie Avanti aurait gagné un appel d'offres lancé par Télé-Québec et aurait convaincu Labrèche de se visser dans le fauteuil du capitaine de plateau. Difficile de refuser une proposition aussi alléchante. Selon mes sources, le recrutement de Marc Labrèche par Télé-Québec a incommodé les patrons de Radio-Canada qui ont dû réaménager leur grille 2018-2019 pour lui. La SRC a repoussé au printemps 2019 la prochaine saison d'Info, sexe et mensonges qui ne jouera dorénavant que sur l'antenne principale et non plus sur RTV. Malheureusement pour ses fans, Marc Labrèche ne serait pas de retour au Bye Bye cette année, lui qui, avec Anne Dorval, avait volé la vedette de la dernière édition. C'est du moins le bruit qui galope dans les corridors de la Grande Tour. Et pour terminer avec des recettes de 392 727 $ au Québec ce week-end, le film La Bolduc a tenu tête à la super production Rampage qui a terminé bonne première avec des recettes de 400 401 $. Rampage en était à son premier week-end en salle alors que La Bolduc en était à sa deuxième fin de semaine. Les recettes du film de François Bouvier atteignent maintenant 1 335 559 $ au Québec en marge de cette lutte épique, le documentaire « La terre vue du cœur » de Yolande Cadrin-Rossignol a connu un premier week-end digne de mention. Présenté sur seulement 4 écrans, l'œuvre environnementale a enregistré des recettes de plus de 30 000 $. Le distributeur Maison 4.2.3 indique qu'il s'agit de sa meilleure moyenne par écran au box-office en Amérique du Nord.
Sors-moi donc, Albert, amène-moi voir des choses. Sors-moi donc de la maison, éloigne-moi des enfants. Juste un soir, Albert, au restaurant du centre ou au concert en ville, tout seul, une fois. En auto ou à pied, sans amis, sans parents, collé sur moi comme tu faisais avant. Parce que si tu me sors pas, je vais me faire mon cinéma. Ce que tu me montres pas, je l'inventerai tout bas. Mais je t'inviterai pas, chacun son bord on sera. Du couple qui se comprend plus, ça en fera un de plus. Sors-moi donc, Albert, amène-moi voir des choses. Sors-moi donc de la maison, éloigne-moi des enfants. Juste un soir, Albert, au restaurant du centre ou au concert en ville, tous deux tout seuls, une fois, une fois, une fois, Albert.
Félix Leclerc et la pièce Sors-moi donc, Albert.
section libre, sujet libre. Hier, je vous parlais du dossier restauration signé par Nadiel Couteloup. Alors, chose promise, chose due, parce que je vous en ai lu une partie et je vais poursuivre avec conseils pour un repas réussi. Je vous mets un petit peu dans le contexte. Dans son texte « Mon enfant, pas dans ton restaurant » publié sur son blog, Yann Perrault lance d'emblée « J'aime bien aller au restaurant avec ma famille et j'aime la cuisine bien apprêtée. Je ne veux pas toujours aller dans un restaurant de type familial, mais lorsque je vais dans un resto un peu plus trendy, j'ai l'impression que mon enfant est de trop. Et pourtant, ça n'est vraiment pas difficile de satisfaire un enfant de 2 ou 3 ans. Alors, j'y vais avec les conseils pour un repas réussi. Bien se préparer. Avant d'entrer dans un resto, l'enfant doit être averti que c'est un privilège et une expérience d'aller au restaurant, souligne Hugo Vincent Mariotti, chef du bistrot West Brom. Il faut bien expliquer les règles aux enfants avant, en leur disant qu'on ne peut pas courir, par exemple, ajoute Martin Vizina de l'Association des restaurateurs du Québec. Plus les enfants seront habitués à respecter le cadre de restaurant, moins ce sera difficile pour les parents. Le plus dur, ce sont les enfants de moins de 5 ans. Comme parents, il faut souvent les avertir car ils vont hausser le ton. Parfois, ils veulent marcher et ça peut être dangereux avec les serveurs qui transportent des plats, ajoute M. Mariotti. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne pas venir à 19h30, 20h avec les enfants, affirme Rodolphe Kerbouriou, directeur de la restauration de l'hôtel Le Germain Charlevoix. Pour éviter que les enfants soient fatigués, mieux vaut donc arriver autour de 18h. Si on est stressé à l'idée d'aller dans un restaurant tendance, on peut commencer par une sortie dans un bistrot de quartier. M. Mariotti recommande d'apporter plusieurs objets, des lingettes, des livres, des crayons à colorier, des feuilles, des cahiers, sans oublier la tablette ou le téléphone bien chargé, ainsi que la doudou de l'enfant au cas où il commencerait à être fatigué. Il suggère aussi d'apporter le gobelet de l'enfant pour éviter d'utiliser les verres du restaurant qui ne sont pas toujours adaptés. Dès qu'il voit des enfants entrer dans son restaurant, Hugo Vincent Mariotti demande au serveur de leur offrir rapidement du pain, car les enfants ont besoin de quelque chose à leur portée. Et généralement, on sort les plats pour les enfants en même temps que les entrées des adultes. Les parents ne devraient pas hésiter à demander que les plats des enfants soient servis dès qu'ils sont prêts. Ce n'est pas le moment de commander le menu dégustation ou un repas 5 services. Avec des enfants de moins de 6 ou 7 ans, il faut généralement s'attendre à une sortie d'environ 1 heure. Après, ça devient généralement plus difficile, avance M. Mariotti. Durant le repas, si l'enfant est difficile, les parents peuvent dire au serveur qu'ils prendront le plat ou le dessert à emporter. Il ne faut pas le voir comme un échec, mais comme une expérience. Il ne faut pas se leurrer. Un repas avec de jeunes enfants ne permettra pas aux parents de discuter en tête-à-tête. Il faut constamment que les parents soient interactifs avec les enfants pour qu'ils ne commencent pas à faire autre chose, à bouger et vouloir sortir de table, avise Hugo Vincent Mariotti. Les enfants ont la bougeotte? On peut demander au serveur s'il est possible de les emmener en cuisine. Ça leur permettra d'observer la magie du resto, de voir la préparation des plats et de comprendre ce qui se passe. Aussi, comme les enfants aiment les pâtisseries, s'il y a un pâtissier, ils peuvent aussi regarder la préparation des desserts, indique M. Mariotti. Les enfants n'ont généralement pas de gros appétits et les portions peuvent souvent être trop généreuses. Il peut être plus intéressant de commander une entrée à la carte pour les enfants. Et comme ce sont des aliments préparés sur place, ça permettra aussi à l'enfant de goûter des choses différentes et de développer ses papilles gustatives. Et on n'oublie pas de laisser de la place pour le dessert. Gala de la gastronomie des Lauriers bien variés réunissait environ 850 personnes du milieu de la restauration québécoise dans une ancienne église, le Salon 1861 dans Griffintown, et vous aurez tout sauf une ambiance de recueillement. Hier soir se tenait le premier gala des Lauriers de la gastronomie animé par Christian Bégin. Le résultat de la remise de prix était agréablement inclusif. Des hommes, des femmes, des gens de tous les métiers entourant la gastronomie venus de Québec, de Ferme-Neuve, du Bic, etc. Rappelons que les finalistes et les gagnants étaient choisis par une brigade composée de plusieurs centaines de gens du milieu et par un jury de 7 personnes révélées hier soir. Le chef Stéphane Modat, président, la reine de la cuisine de rue, Gaëlle Serre, l'écrivain et enseignant Jean-Paul Grapp, Yann Harrison du magazine Ricardo, la sommelière Élise Lambert, le critique Jean-Philippe Tastet et la journaliste Alison Van Rassel. L'organisation tenait à tout prix à briser le côté formel de la remise de prix. Plutôt que de monter sur une scène, les lauréats étaient invités à marcher sur une passerelle pour recevoir leur trophée. Colombe Saint-Pierre, gagnante du prix de chef de l'année, est même arrivée en faisant une culbute. Antonin Mousseau-Rivard a pour sa part envahi la plateforme avec une vingtaine de membres de l'équipe du Mousseau pour aller chercher son prix de restaurant de l'année. La soirée s'est conclue avec un cocktail dînatoire et un concert de Radio Radio. Alors ici, les autres lauréats 2018, producteurs de l'année, Miel, d'Anicette, révélation de l'année, Stéphanie Cardinal, chef de cuisine au restaurant Le Vin Papillon, artisan de l'année, Anne et Catherine Mona, Cassis Mona et fille, laurier du public, Ricardo, entreprise ou initiative de l'année, la Tablée des chefs, prix du rayonnement de la culture culinaire québécoise, Normand Laprise. Sommelier de l'année, Marc Lamar, au restaurant Le Clocher Penché. Événement gastronomique de l'année, Montréal en lumière. Prix du tourisme gourmand, les événements Prenez le champ. Prix du service en salle, Alexandre Van Huyn, au Montréal Plaza. Prix hommage, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, donc l'ITHQ. Cette bonne raison d'aller à Elmer, c'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Situé au bord de la rivière des Outaouais, le secteur Elmer de la ville de Gatineau est au cœur des grands chapitres de l'histoire de la région. Depuis quelques années, sa rue principale est devenue une destination en soi. Où s'informer? Pour tout savoir à propos de l'histoire d'Elmer et donc de l'Outaouais, rendez-vous au musée de l'auberge Sims, construite en 1831 par Charles Sims, fondateur d'Elmer, la maison dans laquelle est situé le musée présente une exposition permanente racontant l'histoire des personnages qui ont marqué la municipalité. Elle explique aussi les nombreuses utilisations de la rivière des Outaouais à travers les époques. Où flâner? Devant l'auberge Sims, il y a la marina d'Elmer. C'est de loin l'endroit le plus prisé de la ville pour faire un pique-nique au bord de la rivière, admirer les bateaux qui voguent devant nous, ou alors pour regarder les gens qui passent tout simplement. Tous les vendredis et samedis soirs et les dimanches après-midi, des groupes de musique divertissent les visiteurs. Où se détendre? Depuis 38 ans, le studio 157 invite à la détente et aux soins de la plus grande qualité. L'entreprise familiale de 3 générations était d'ailleurs la première de la région à offrir tous les soins, massothérapie, esthétique, coiffure, sous un même toit. En plus d'offrir 13 techniques différentes de massage, dont le massage sous la pluie, elle est aussi spécialisée dans les soins spéciaux comme l'épilation au laser et le lifting sans chirurgie. Où manger? Pour le lunch, il ne faut pas manquer le fish and chip et la sauce tartare maison de l'aubergiste. Il est situé dans l'ancienne demeure d'Éphrem Guimont, aubergiste à l'hôtel de Sims, aujourd'hui le musée cité plus haut. La plupart des murs de bois et carrés de la maison sont encore présents, même si la construction date des années 1870. Où prendre un verre? Il y a 20 ans, la rue principale à Elmer était loin d'être aussi animée qu'aujourd'hui. L'arrivée de la maison de fût l'autre, A-E-I-L, a certainement contribué à en faire une destination de choix pour les amateurs de bière, et pour cause, elle tient environ 350 sortes de bières différentes, tant locales qu'internationales. Et où dormir, finalement? Ouvert en 1834, l'hôtel British a d'abord été une auberge pour les voyageurs qui remontaient la rivière des Outaouais en bateau à vapeur, en plus d'une salle de spectacle et d'un lieu de rassemblement pour l'élite au temps de la Confédération. Chacune des 10 chambres raconte le rôle de personnages phares dans l'histoire de l'Outaouais, ou de gens importants qui ont résidé à l'hôtel. Une autre façon d'en apprendre sur l'histoire d'Elmer et des environs. C'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. J'espère vous retrouver demain ou tantôt avec les paractualités que j'anime avec plaisir. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical.